Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Chômage de masse.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est une réalité.
Alors non !
Chômage de masse.
Le seul responsable de cette
chômage
affaire,
de masse.
C'est moi !
Chômage de masse.
Il ne suffit pas de traverser la rue, même à Paris, pour trouver du taf. Difficile dans nos campagnes d'en trouver en traversant la départementale. Et pourtant, des solutions existent. Alors, traversons la rue et allons voir ce qui se passe de l'autre côté du trottoir. Dans ce nouveau numéro de Traversons la rue, l'émission consacrée à l'insertion, la formation et l'emploi, on va parler de la formation de guide accompagnateur touristique proposée par l'AFPA de Carcassonne. Pour commencer cette émission, nous allons accueillir le responsable formation de l'AFPA, monsieur Jean-Philippe Degracia. Nous aurons ensuite en interview Christophe Klein, formateur référent tourisme pour la formation guide accompagnateur touristique. Et pour finir, nous accueillerons Stéphanie Butéjag, guide touristique, qui a fait cette formation il y a déjà quelques années. Bonjour monsieur Jean-Philippe Degracia.
Bonjour.
Alors vous êtes donc le responsable formation pour l'AFPA de Carcassonne. Pouvez-vous
oui.
nous présenter l'AFPA en quelques mots ?
Alors en quelques mots, l'AFPA de Carcassonne, comme les autres centres AFPA, est un centre qui est dédié à l'apprentissage de plusieurs métiers, donc en fonction du territoire sur lequel il est implanté, avec également un gros volet lié à l'insertion des demandeurs d'emploi et en même temps à l'accompagnement des personnes qui sont soit en situation d'échec scolaire et avec lesquelles nous allons reconstruire un projet professionnel.
Alors,
et également...
Oui, je me permets de vous couper. Ce dont vous parlez plus précisément, c'est un rapport avec la promo 16-18, il me semble. Hein.
C'est ça, oui.
D'accord. Je vous en prie, continuez.
Donc, hormis donc ce volet lié à la formation des professionnels et à la préparation de diplômes, donc dédié à la fois au public jeune et adulte, donc le centre développe également l'accompagnement donc des jeunes qui sont en situation d'échec scolaire avec le dispositif promo 16-18,
mm-hmm.
mais également l'accompagnement et la levée des freins pour le public adulte avec des dispositifs comme prépa compétences. Donc l'objectif en fait du centre, c'est d'être dans une démarche d'accueil inconditionnel. Toute personne qui va se présenter sur le centre AFPA, donc en sachant que nous avons des journées d'ouverture du centre donc quotidiennes et hebdomadaires. Donc nous allons rencontrer ces personnes, nous allons analyser en fait leurs besoins et en fonction du besoin, nous allons proposer une solution. L'objectif, c'est ça. Au niveau du centre, c'est de trouver en fait une réponse adaptée à la situation de la personne.
D'accord.
Et utiliser tous les dispositifs donc qui s'offrent à elle.
Mmh, ok. Et faut-il être impérativement demandeur d'emploi pour se faire financer une formation chez vous ou y a-t-il un autre moyen ?
Non, il y a d'autres moyens. En fait, l'accès à la formation aujourd'hui est à la fois ouvert aux personnes qui sont demandeurs d'emploi, mais également, bien évidemment, aux salariés, donc avec des financements par le biais des OPCO, également par des dispositifs comme Transition Pro, également par le biais du CPF.
Sur la page d'accueil de votre site, donc vous proposez aux particuliers de rencontrer un conseiller expert par le biais d'un rendez-vous individuel. Alors de quoi s'agit-il ? Est-ce que cet expert est un conseiller d'orientation en fait ?
Alors c'est en fait il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir accompagner ou en tout cas répondre aux questions ou aux interrogations de la personne qui va se présenter. Effectivement, nous avons un conseiller qui va pouvoir analyser le besoin, mais il va être accompagné par le formateur également référent.
Mmh.
ou un spécialiste, un ingénieur qui va pouvoir en fait affiner la proposition de formation. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir comprendre la situation, le besoin, mmh. le parcours qui peut être à créer pour répondre aux attentes de la personne qui s'est présentée sur notre centre.
D'accord.
Et de trouver la modalité pédagogique et en même temps donc le calendrier de formation qui va être adapté.
D'accord. J'ai vu aussi que l'AFPA recrutait, comme cette émission est consacrée à l'emploi au sens large, je serais curieuse de savoir sur quel poste vous recrutez.
Alors nous recrutons essentiellement pour les entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires dans le cadre de contrats en alternance ou de contrats de professionnalisation. Donc, nous avons plusieurs postes qui sont à pourvoir.
D'accord.
Actuellement sur le secteur du bâtiment, du gros œuvre et du second œuvre.
D'accord. Ok, le second œuvre c'est des petits...
Et également le commerce.
D'accord. Second œuvre c'est des petites œuvres dans le bâtiment, c'est ça?
On est plutôt sur beaucoup de demandes au niveau de métiers polyvalents des gens de maintenance du bâtiment.
D'accord, ok.
Puisque ça permet de couvrir tout l'intérieur, en fait.
Mm-hmm. Hein, ok, c'est tout ce qui est peinture intérieure, des choses comme ça.
Électricité également, oh, okay. Et sanitaire. Hein.
D'accord, plomberie, électricité, quoi.
C'est ça.
Ok. Ce Traversons la rue s'intéresse aujourd'hui en particulier à la formation guide accompagnateur touristique. Depuis combien de temps existe-t-elle? Combien de guides, à peu près, hein, j'imagine que ça doit être compliqué à évaluer, combien de guides touristiques a-t-elle déjà formé? Et est-ce, à votre avis, un des secteurs les plus porteurs de notre région?
Alors, je vais répondre par la dernière question. Mmh. Le métier, les porteurs, oui. Mmh. On est sur un territoire où... Voilà, le tourisme, il est quand même relativement implanté et il y a de fortes demandes. Le métier de guide accompagnateur touristique présente également cette spécificité de pouvoir s'adapter à tous les territoires et à toutes les prestations touristiques. Pas simplement donc les spécificités locales. On développe cette formation depuis maintenant une dizaine d'années avec à peu près, je pense qu'on doit être pas très très loin de peut-être de 200, entre 150 et 200 personnes qui ont été formées, oui.
D'accord. Vous êtes sûr pour la dizaine d'années parce que Christophe Klein semble dire qu'il est formateur depuis une vingtaine d'années quasiment chez vous.
Alors, le métier de guide accompagnateur touristique, en fait, les titres professionnels ont évolué dans le temps. Autrefois, on n'appelait pas ça des guides accompagnateurs touristiques.
D'accord. Ça avait un autre intitulé, mais ça fait bien une vingtaine d'années.
Le métier a beaucoup changé aussi.
D'accord. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose au sujet de l'AFPA de Carcassonne, une spécificité? Vous parliez tout à l'heure du fait que chaque AFPA, finalement, s'adapte un petit peu à son secteur géographique aussi pour proposer vraiment les métiers un peu d'avenir. Est-ce que vous auriez une chose à rajouter par rapport à la spécificité de l'AFPA de Carcassonne?
Alors, c'est vrai que l'AFPA de Carcassonne est... constituer en fait son panel de formation en fonction des demandes du territoire. Mmh. Donc beaucoup de demandes dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, on l'étend et on l'ouvre sur de nouvelles formations comme ouvrier pierre sèche. Donc puisque ça correspond à une demande sur notre territoire. Notre objectif en fait, c'est d'être toujours au plus proche des besoins des structures locales. Et de pouvoir répondre en fait à leurs attentes. On s'appuie beaucoup en fait sur notre réseau de partenaires. Mmh. On travaille en étroite collaboration avec la CAPEB, ce qui nous permet d'être au plus proche des besoins des artisans, ainsi que de la Fédération du bâtiment, puisque c'est quand même le cœur en fait de notre activité.
D'accord. Donc vous formez beaucoup d'artisans finalement.
Oui, de futurs artisans, oui.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Philippe De Gracia. Je rappelle que vous êtes responsable formation pour l'AFPA de Carcassonne. Merci bien et bonne journée.
Merci également.
Au revoir.
Au revoir.
Traversons la rue continue avec Christophe Klein qu'on accueille tout de suite. Salut Christophe.
Salut Christina.
Tu es formateur référent tourisme, c'est toi qui dispenses cette formation de guide accompagnateur touristique proposée par l'AFPA de Carcassonne. Tu es toi-même guide touristique, depuis combien de temps es-tu guide et depuis quand es-tu formateur à l'AFPA ?
Alors guide, je suis depuis que j'ai fait ma formation à l'AFPA en 97. Voilà, donc je fais cette formation que je conduis aujourd'hui et à l'issue de laquelle eh bien, j'ai eu l'occasion d'exercer ce métier qui est un métier passion, un métier magnifique de guide accompagnateur touristique sur du grand tourisme, uniquement sur du long courrier.
Ok, international.
International, absolument.
Okay. Avec des pays peut-être un peu spécifiques ?
Alors j'ai un petit peu mon dévolu sur la Scandinavie. Avant, je travaillais beaucoup sur l'Europe du Sud, donc tout ce qui était Italie, Espagne, Andalousie, enfin toute l'Europe du Sud. Et puis, quand je suis devenu formateur, j'ai dû faire un choix de réduire un peu la voilure sur mon travail de guide. Et puis, je me suis fixé sur la Scandinavie, sur l'Islande.
Ok. Du coup, tu es guide depuis 1997. Et depuis quand es-tu formateur à l'AFPA ?
Depuis 2001.
Quels sont les différents profils des stagiaires que tu formes ? Au niveau professionnel, par exemple, ou au niveau des âges, voilà, les différents types de stagiaires que tu peux être amené à former ?
Alors, l'AFPA, par définition, c'est une agence de formation professionnelle pour adultes. Donc, on ne forme que des adultes.
Mais voilà. Ça peut être à partir de 18 ans déjà.
Oui, 18-19 ans, c'est des jeunes. Maintenant, c'est vrai que pour faire ces métiers-là, il faut un petit peu de coffre, un petit peu de bouteille, c'est compliqué. 18-19 ans, on n'est pas encore complètement fini et c'est vrai que c'est un métier un peu compliqué. Donc, on a peu de
jeunes.
De jeunes, voilà. Sinon, proportion homme-femme, pareil.
D'accord. J'allais te poser la question, vu que tu es quand même venu accompagner dans les studios avec quatre nanas, des futurs guides touristiques. Mais en gros, en général, c'est moitié-moitié ?
En gros, en général.
Il y a peut-être plus de nanas, non ?
Oui,
il y a quand même plus de nanas.
Oui. C'est quand même, c'est un métier qui, depuis toujours, est extrêmement féminin. Donc, il y a beaucoup de femmes.
Okay.
Et moi, j'ai été un des premiers, quand je démarrais en 97 dans ce métier-là, un des premiers pour l'agence pour laquelle j'ai travaillé à être avec un homme. Il n'y avait que des filles.
D'accord.
Donc, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, sinon, c'est beaucoup de gens qui sont en reconversion.
Ok.
Voilà, ça, je crois que c'est la majorité des gens en reconversion.
Donc, avec différents métiers qu'ils ont exercés auparavant.
Tout à fait. Une vie professionnelle avant qu'ils les ont formés à l'esprit d'entreprise, en fait. Ce sont des gens qui sont déjà vraiment aguerris à l'entreprise, au travail. Donc, voilà, des reconversions. On va dire partent à zéro pour la plupart.
Ok. Et puis, voilà. Est-ce que tu as eu des profils même de gens plutôt âgés, entre guillemets, c'est-à-dire, je ne sais pas, plus de 40 ans ou 50 ans
J'ai des retraités.
T'as des retraités carrément ?
Tout à fait, il y
en a. Ils font
plusieurs.
Ça juste pour le plaisir ou vraiment ils comptent exercer ensuite ?
Ah bien sûr, mais pour le plaisir.
D'accord.
Donc exercer ce métier, la plupart ce sont... Alors pour les femmes, c'est beaucoup de femmes qui me disent que c'était un rêve de jeune fille d'être accompagnatrice de voyage. Elles ont une vie de famille, elles ont élevé des enfants et quand les enfants sont grands, elles reviennent à leur rêve de jeune fille et voilà, elles font ma formation. Et j'en ai notamment une, je vais la citer en exemple, c'est quelqu'un qui est arrivé, elle avait 62 ans dans ma formation, elle a fait un parcours exceptionnel, elle est devenue guide, et maintenant elle est guide conférencière dans beaucoup de sites, et elle va faire pour la première fois la Norvège au mois de mai.
Ok, donc aucun frein à l'âge
d'âge,
en fait.
Hein. Absolument aucun,
okay.
Au contraire.
Alors la sélection se fait-elle en fonction des langues étrangères parlées ?
Oui.
Forcément ?
Forcément.
Il faut en avoir au moins une qu'on maîtrise ?
Au moins une langue, bien sûr.
Ouais. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des cours de langue dispensés pendant la formation ou pas ?
Durant la formation, on a 90 heures d'anglais.
D'accord, quand même. Hein ?
Normalement.
Ok. Mais on peut arriver avec un bagage où on parle le russe parfaitement et ça peut être un plus.
Tout à fait. Et l'espagnol aussi. Ici, dans la région, il y a beaucoup d'espagnol et c'est un plus.
Ok.
C'est vrai.
Alors, la sélection des stagiaires se fait-elle en fonction des prédispositions des postulants, telles que, par exemple, la capacité de s'exprimer en public ?
Oui. Oui.
Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, pas mal de recalés au départ ou plutôt en fin de formation ? Comment ça se passe ? Est-ce que la sélection est assez sélective, si on peut dire ?
Assez, oui. Ouais. C'est vrai qu'il faut un niveau d'anglais minimum quand même. Hein. Bon, on ne demande pas des gens qui parlent couramment anglais, mais une bonne compréhension et puis voilà, de pouvoir s'exprimer normalement, une culture générale minimum. Et puis, en fait, il n'y a pas énormément de choses. Tout le reste, on l'apprend en formation. La seule chose que je demande à mes stagiaires, c'est qu'ils restent motivés. Si eux sont motivés, nous, on s'occupe du reste.
D'accord.
Et on peut les accompagner effectivement à la réussite.
Mm-hmm. Hein.
C'est l'examen, ce sont des formations qualifiantes et puis surtout le travail derrière, quoi.
Alors justement, donc, tu réponds à ma prochaine question. Donc, elles sont qualifiantes, ces formations, et ça dure combien de temps ?
6 mois.
Quelles sont les qualités requises pour être un bon guide touristique ?
Alors, aimer communiquer,
ouais.
Aimer la culture, l'histoire, être curieux de tout, de pouvoir bien s'approprier tout ce qu'on va étudier pour retransmettre ça à nos clientèles. Et en fait, il faut être communicant. Il faut aimer les gens, il faut être communicant, il faut aimer voyager. Sur du grand tourisme, bien sûr.
Pas forcément. Par exemple, je pense à Stéphanie que je vais interviewer derrière. On peut être très spécialisé sur un secteur comme tout simplement même la Haute-Vallée.
Absolument. En fait, il y a trois métiers. C'est guide local, donc des gens qui, comme Stéphanie, tu l'as cité, c'est exemplaire aussi, qui resteront ici. Donc, ils travaillent sur des châteaux, sur des abbayes, sur des sites. Le deuxième métier, ce sont des accompagnateurs touristiques qui vont accompagner des groupes de touristes qui sont en village club, camping club ou hôtel club. Donc, ce sont des formules, une semaine d'hébergement, durant laquelle semaine on va leur proposer des animations. Et notamment l'accompagnement, visite, découverte, demi-journée ou à la journée. Et le troisième métier, c'est ce que je fais moi, du grand tourisme, c'est-à-dire l'international.
Proportionnellement, quelle est la partie consacrée à la pratique, la mise en situation par rapport à la partie théorique ?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a deux périodes dans l'entreprise. On a entre 6 et 8 semaines. Ils ont entre 6 et 8 semaines de ce qu'on appelle de période d'application à l'entreprise, c'est-à-dire les stages en entreprise. Bon, c'est vrai que depuis 20 ans que je travaille ici, j'ai un réseau, j'ai développé un réseau, donc ils n'ont aucun mal à trouver ce qu'on appelle des PAE. On parle beaucoup en acronyme à l'AFPA. Donc, ces périodes d'entreprise, c'est environ entre 6 et 8 semaines. Et sinon, le reste du temps, on est effectivement en théorie. Mais ces théories, moi, je mets énormément l'accent sur le terrain. Donc, on est énormément en sortie.
D'accord. Donc même en partie théorique, tu les amènes quand même à l'extérieur.
À l'extérieur, en permanence. En fait, on sort régulièrement tous les mardis minimum, mardi, mercredi. Voilà, donc ça c'est de la sortie découverte, mais on a aussi des sorties où je les mets en situation de guidage et d'accompagnement sur une journée d'excursion. Donc ils montent le programme, c'est toute la première partie de la formation, donc ils vont créer un programme, ils vont le monter, et puis une fois qu'il est fait, je vais le valider, ils vont le présenter, et puis ensuite on va le faire. Donc voilà, on a un minibus, 9 places, on va dedans et puis voilà, ils font leur travail de guide, accompagnateur sur une journée.
Et toi, t'en as combien en même temps de stagiaires du coup ?
Alors ça va entre 8 et 12.
D'accord.
En gros.
Ok. Suite à notre interview, donc comme je le disais, je vais accueillir Stéphanie Butéjeg, que tu connais bien, je pense, puisque tu l'as eu en formation il y a déjà une dizaine d'années, apparemment.
Tout à fait.
Donc c'est ton ancienne stagiaire, j'imagine qu'elle fait partie des bons éléments ?
Excellentissime. Elle est jury même maintenant.
Oui.
Oui, tout à fait. Ouais. Je l'ai habilité comme jury.
D'accord. Et puis surtout, ça a été un bon élément parce qu'au départ, c'est une passionnée d'histoire. Donc forcément, c'est un énorme plus pour être guide et en particulier ici.
Absolument.
De s'intéresser vraiment à l'histoire locale.
Absolument. Et c'est vrai que maintenant, c'est au-delà de mon ancienne stagiaire. Maintenant, c'est une amie. Et puis, c'est une collègue, absolument. On fait le même métier, absolument. Et puis c'est vrai qu'elle nous fait découvrir la région avec toutes les nouvelles formations. Je ne rate jamais une occasion de prendre Stéphanie pour une journée complète.
D'accord.
Donc elle fait des choses extraordinaires en dehors de son talent de guide.
Ouais.
Elle fait des escape games, elle fait des cold case, elle fait des choses, elle est très créative, elle est hyper dynamique, elle est vraiment adorable. C'est, voilà, c'est un grand plaisir de bosser avec Stéphanie.
Bon, tu dois être fier de l'avoir formée.
Absolument.
Que pourrais-tu conseiller à quelqu'un qui souhaite faire cette formation de guide accompagnateur touristique mais qui ne sait pas vraiment si cela lui correspond ?
Alors, une formation comme la mienne, effectivement, il y a beaucoup de stagiaires qui rentrent en formation ne sachant pas tout à fait, ou très précisément, ou ayant des doutes, et voilà, c'est un peu une découverte. Cette formation, ils vont la démarrer, on va voir les tenants, les aboutissants, les contraintes, voilà, un certain nombre de choses.
Est-ce que déjà, par exemple, pendant la sélection, tu peux être amené à leur préciser peut-être que oui, vous êtes effectivement fait pour ça, ou pas vraiment ?
Alors, je préfère les avoir en situation quand même. Parce que sur une sélection, c'est très rapide. Il y en a qui ont du mal à faire valoir leur motivation. Donc, je préfère les avoir en formation.
D'accord.
Quand ils rentrent, voilà, on dépoussière plein de choses. Et puis, soit c'est la motivation, ça déclenche l'envie du métier, etc. Et c'est génial, c'est des réussites. Soit au contraire, et c'est pas un échec de dire, voilà, ça, c'est pas un truc pour moi. On a beaucoup de stagiaires qui abandonnent en disant, voilà, ça me fait peur, c'est pas un truc pour moi. J'aime pas le parler en public, c'est pas leur truc. Voilà, il y a plein de choses qui font que c'est au fur et à mesure qu'on va dérouler la formation qu'ils vont comprendre s'ils sont faits pour ça ou pas.
D'accord.
Et ensuite, on les réoriente s'ils sont pas faits pour
ça. D'accord. Donc, en cours de route, il y a quelques-uns qui partent d'eux-mêmes.
Tout à fait.
Est-ce que pour ceux qui restent, est-ce que tu as une idée ? Donc j'imagine que chaque année est différente, mais au niveau du taux de réussite, tu pourrais donner un chiffre ?
Bien sûr, on a des chiffres. Alors sur l'examen, encore une fois, c'est un examen niveau bac professionnel. Donc c'est un examen qui est assez, qui est reconnu par le ministère du Travail, qui permet aux stagiaires de pouvoir continuer leurs études, rentrer en fac pour être guide conférencier s'ils le désirent.
D'accord.
Voilà, donc on a 90% de réussite à l'examen.
Ah, quand même ?
C'est quand même pas mal.
D'accord.
Et le placement, pour moi, c'est le plus important. L'examen, c'est une chose, c'est bien, mais c'est un petit peu la plume de Jumbo, l'éléphant, hein, qui est convaincu qu'il peut voler parce qu'il a la plume. Hein. Nos stagiaires peuvent voler sans la plume, donc c'est clair que l'examen n'est pas une obligation. Pour moi, c'est vraiment de découvrir le réseau, découvrir le métier, aimer le métier et bosser derrière. Et là, on a 70%
d'accord.
de placement pérenne.
Super. Et c'est vous qui les placez ? Pas forcément.
Non, du tout. C'est eux qui se dévoilent.
D'accord.
La période d'application d'entreprise, le stage dont je te parlais tout à l'heure, là, c'est totalement déterminant pour l'avenir.
Bien sûr.
C'est leur stage qui va faire qu'ils vont poser leurs jalons, ils vont se faire remarquer dans le bon sens et ensuite ils seront embauchés après la formation sur les saisons diverses.
D'accord.
Maintenant, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, hein, c'est notre métier, c'est comme ça, c'est que c'est saisonnier. Là, ils ne travailleront que de avril à octobre, en gros, et ensuite, l'hiver, ils doivent rebondir ailleurs.
D'accord, donc il faut quand même peut-être le combiner avec un autre métier ou
On a beaucoup de stagiaires dont je fais partie, moi. Enfin, on a deux employeurs, voire trois employeurs à l'année.
D'accord. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour, Christophe ? Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose concernant cette formation ?
Non, je crois qu'on a fait le tour, tout à fait. Voilà, formation qualifiante, elle dure 6 mois. Et surtout, je mets l'accent sur le fait qu'on doit apprendre. C'est pour moi un leitmotiv important, beaucoup de plaisir à la formation au quotidien, parce que notre métier, c'est un métier de plaisir, de loisir, de fun, comme je dis en espagnol, alegría.
C'est un peu le mot d'ordre. C'est sûr qu'un guide qui n'est pas très motivé, ça ne doit pas donner envie aux gens de s'intéresser à ce qu'il raconte.
Bien sûr, bien sûr. Non, il faut être motivé, il faut être passionné.
Ouais. Bon, merci beaucoup Christophe Klein. Je rappelle que tu es formateur référent tourisme pour la formation guide accompagnateur touristique dispensée par l'AFPA de Carcassonne. Merci.
Avec grand plaisir, Christina.
Merci,
à
ciao.
Bientôt. Ciao.
Ce Traversons la rue continue avec Stéphanie Butéjag, notre invitée. Salut Stéphanie.
Salut Christina.
Alors tu as fait cette formation de guide accompagnateur touristique proposée par l'AFPA de Carcassonne, c'était il y a combien de temps ?
J'ai fait cette formation il y a à peu près 10 ans.
D'accord, tu avais quel âge à l'époque ?
Donc j'avais 35 ans.
Ok, quel était ton parcours professionnel avant de l'intégrer ?
Alors, j'habitais sur Marseille donc au départ, parce que j'ai passé toute ma vie sur Marseille avant d'arriver dans la Haute-Vallée de l'Aude. Donc, j'ai passé un BTS tourisme sur Marseille avec option guidage.
Okay.
Et après, donc, étant arrivée dans la région, je n'ai pas repris ce travail dessus. Donc, j'ai fait des petits boulots, comme serveuse, vendeuse en boulangerie, voilà, pas mal de choses.
Okay.
Et finalement, j'ai décidé de passer ce diplôme de guide touristique.
De revenir à tes premiers amours,
voilà,
peut-être.
Voilà, tout à fait, puisque finalement, le guidage me manquait.
Ouais. Tu en avais un peu pratiqué ?
J'en avais un petit peu pratiqué à Marseille, mais pas longtemps.
D'accord.
Et comme je n'avais pas fait ça depuis quand même pas mal d'années, je me suis dit il faut repasser le diplôme pour remettre dans le bain et reprendre des acquis, etc.
D'accord, voilà. Ok. Donc, après avoir fait plusieurs petits boulots, tu t'es dit, tiens, c'est le moment quand même, à 35 ans, on peut justement encore démarrer une nouvelle vie professionnelle.
C'est ça, tout à fait.
Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à changer de voie ? Non, pas vraiment, puisque tu avais déjà... fait cette formation. Donc, pourquoi avoir choisi cette formation en particulier ? Je pense que tu viens de me répondre.
Oui, en fait, je continue quand même à le pratiquer un petit peu, le guidage, sous forme d'association, puisqu'on avait monté une association où je faisais découvrir la région aux visiteurs ou même aux personnes du coin. Et tout naturellement, je me suis dit, maintenant, c'est ce qui me plaît vraiment. Donc, il faudrait que je le fasse vraiment de façon professionnelle.
D'accord.
Donc, j'ai décidé d'intégrer la formation à l'AFPA de Carcassonne.
Ok. Alors, comment ça s'est passé pour toi ensuite, quand tu as fini cette formation ? Est-ce que tu as trouvé du travail facilement ?
C'est-à-dire, j'étais partie dans l'optique de me mettre à mon compte, puisque je me suis rendue compte, sur la Haute-Vallée de l'Aude, il y avait quelque chose vraiment à développer, puisqu'il n'y avait pas vraiment de tourisme dans le secteur. Donc, je suis partie sur une entreprise directement.
Donc, t'es sortie de formation et t'as
directement monté... Directement, j'ai monté mon entreprise, directement. Okay. Voilà, donc ça a mis un petit peu
de temps.
Tu t'es dit,
il y a matière, autant que je sois ma propre patronne, comme ça,
exactement.
Ça sera plus facile. Donc déjà, est-ce que ça a été compliqué de te mettre à ton compte ?
Alors, les démarches, non. Après, effectivement, il a fallu du temps pour faire une clientèle, comme tout dans la vie.
Donc ça a pris un petit moment.
Ça a pris un petit peu de temps, mais après, le bouche à oreille a vite fonctionné, puisque les personnes étaient satisfaites, il n'y avait rien qui était proposé dans ce sens-là, dans la Haute-Vallée. J'ai essayé de développer le tourisme de façon plus ludique aussi, pour pas que ce soit trop des visites plan-plan, comme on peut observer un petit peu partout ailleurs. Donc j'ai fait des visites guidées en costume d'époque.
D'accord.
J'ai fait des chasses au trésor avec plusieurs niveaux pour enfants, pour adultes.
Ok.
Après j'ai monté des escape games.
Ouais, je voulais en venir après.
Voilà, mais... donc voilà, je développe au fur et à mesure l'activité avec des choses inédites et de façon interactive.
Donc c'est comme ça que tu t'es fait un peu ta clientèle. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as du travail tout au long de l'année ou est-ce qu'il y a des périodes creuses ?
Bah, l'hiver c'est quand même plus calme, hein, ça, voilà, forcément. J'ai quand même un petit peu de monde l'hiver, mais après la grosse période c'est à partir du mois d'avril jusqu'à, on va dire, fin octobre.
Ok. Donc on peut dire que tu en vis annuellement ?
Oui, maintenant, voilà.
D'accord,
ça va.
Ok. Peux-tu nous parler de ton métier ? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans celui-ci ?
Ben moi déjà, c'est le contact avec les personnes, voilà, de partager ma passion, puisque si je fais ce métier, c'est avant tout une passion de l'histoire.
Oui, j'ai cru comprendre.
Voilà, puisque ben, je vais quand même aux archives depuis 25 ans. J'essaie de me documenter beaucoup aussi avec les locaux, puisqu'ils en savent beaucoup sur les histoires,
donc
voilà,
tu vas
les anecdotes.
Avec les petits vieux, voilà, les petites vieilles dans les villages,
ça,
des fois.
Voilà, pour récupérer les anecdotes, des choses qui ne sont pas notées dans des livres. Voilà, donc c'est beaucoup de recherches sur le terrain, aux archives, dans les documents privés, puisqu'il y a aussi beaucoup de familles dans le secteur qui ont des documents un peu plus confidentiels, on va dire, qui se restent familiaux, mais qui sont prêts à communiquer.
D'accord.
Donc mes visites, on va dire, sont étayées avec voilà, une histoire dans l'histoire.
Donc voilà, tu réponds à ma future question. Donc tu es quand même plutôt une férue d'histoire. Et du coup, bah, on est quand même dans une région avec un passé très riche. Donc tu arrives à allier ta passion de l'histoire avec ton travail de guide, en fait.
C'est ça, tout à fait. C'était le but en faisant cette formation.
D'accord. Tu avais déjà ton idée, justement. Moi, je veux apporter autre chose.
C'est ça.
Tu as aussi une autre spécialité dont tu nous as parlé rapidement. Donc, tu es fan d'escape game. Alors, est-ce que tu arrives d'une manière ou d'une autre à concilier les deux ? Est-ce que donc les escape games que tu proposes sont aussi destinés aux touristes ou est-ce que c'est juste une activité parallèle ?
Non, alors, les escape games, en fait, sont destinés à deux sortes de personnes. Il y a vraiment les amateurs de jeux qui viennent vraiment pour jouer, passer un moment.
Donc ça peut être des locaux.
Voilà, alors ça peut être des locaux. Il y en a qui viennent quand même de loin. Puisque,
ah bon ?
Oui, il y a des
Parce
fans...
Parce que c'est quelque chose d'assez rare, l'escape game ?
Oui, alors, surtout sur des lieux historiques. C'est
D'accord.
ce que j'ai choisi, moi, ma spécialité, puisqu'il n'y en a vraiment quasiment pas. Donc, tous les escape games que je propose sont sur des lieux historiques, que ce soit dans l'enceinte du château d'Arc... dans la prison d'Alette-les-Bains qui est du XVIe siècle.
Je ne savais même pas qu'il y avait une prison à Alette.
Voilà,
une
personne ne le sait, donc c'est une ancienne prison
D'accord.
du XVIe siècle, donc on peut jouer
dans
la prison.
Elle est où ?
Elle est sur la place du village.
Ok.
C'est derrière une grosse porte à double battant, et donc personne n'y a accès.
Ouais. Sauf toi.
Sauf pour les
Donc, alors, pour donc, ces lieux que tu viens de nous citer, quand même, c'est cool qu'ils te laissent créer ces escape games dedans, quoi.
Bah, c'est une relation de confiance que j'ai pu créer avec les mairies.
Bien sûr.
Voilà.
En tant que guide, au départ.
En tant que guide. Mmh. Et puis, ce qu'ils veulent aussi, certains villages, pas tous, mais en tout cas, certains villages avec qui je travaille, veulent vraiment dynamiser le côté touristique de leur village et attirer notre clientèle, qui est là, du coup, plus jeune.
D'accord.
Parce que les escape games, souvent, c'est des jeunes qui les font. Alors, il y en a de tout âge, hein,
ouais.
parce que des fois, j'ai des personnes plus âgées. Mais majoritairement, c'est quand même des jeunes qui ne viendraient pas visiter des sites touristiques.
D'accord. Donc, c'est le moyen pour les jeunes de leur faire découvrir,
c'est
peut-être...
C'est ça, l'histoire.
Voilà.
Donc, dans tous mes escape games...
Et des
games,
lieux dans lesquels ils ne seraient pas allés s'il n'y avait pas cet escape
tout à
game,
fait.
Quoi.
Tout à fait. Et donc, je développe
donc,
l'histoire du lieu dans le jeu.
Donc, tu arrives à les sensibiliser en plus
l'histoire.
À l'histoire
c'est
du lieu.
Ça, du lieu.
Ok.
Et il y en a un troisième, donc, au presbytère de Custosa, sur le thème d'Arsène Lupin.
Ok. Donc, ça, c'est quelque chose qui est acté que tu fais chaque année, régulièrement ?
Oui, je le fais toute l'année.
Toute l'année ?
Toute l'année, sur demande. Voilà.
Ok.
Puisque c'est sur réservation.
D'accord. Pour des groupes de combien, à peu près ?
À partir de deux.
Ah oui, à partir de deux. C'est jouable. Ok. Alors, as-tu donc des secteurs géographiques dans lesquels tu es plus présente que d'autres ?
Alors, j'ai pas mal de sites à mon actif, puisque j'en ai quand même une quinzaine sur la Haute-Vallée, de villages sur lesquels je fais des visites. Mais là où je suis le plus souvent, c'est quand même sur Alette-les-Bains et Rennes-le-Château.
D'accord.
Ce sont les visites ben, quand même les plus demandées, même si à Rennes-les-Bains, Bugarrache, Campagne-sur-Aude, voilà, Warc, j'ai du monde.
Ok.
Mais je suis souvent à Alette-les-Bains et Rennes-le-Château, qui est un peu ma spécialité, puisque ben, c'est là surtout que j'ai eu accès à des documents privés, donc je fais des visites, on va dire...
plus documentées.
Plus documentées, et vraiment, quand les personnes ressortent de là, ils me disent « Ah oui, on a une autre vision de l'histoire, par rapport à ce qui est marqué dans les bouquins. »
Tu dois en savoir des choses. Hein.
J'en sais pas mal.
D'ailleurs, il me semble que tu as même sorti un livre.
Oui, tout à fait.
L'intitulé ?
Alors, L'héritière de Marie-Madeleine,
Donc ça, c'est toute l'histoire
autour de Reine Lechaunière. C'est toute l'histoire de Chaunière, voilà, ouais. Sur la Bessonnière, avec les découvertes qu'il a faites, et où ça va le conduire sur la trace de Marie-Madeleine dans le secteur, et même en Provence, puisqu'on sait qu'il correspondait, ou qu'il est allé en tout cas à la Sainte-Baume. Et j'en ai fait un autre, qui est le guide du Razès insolite, qui recense tous les sites mystérieux à découvrir dans le secteur, avec l'histoire, légendes, chemin d'accès et photos.
Super. Bah dis donc, bah merci beaucoup en tout cas Stéphanie, je rappelle que tu es guide accompagnatrice touristique formée par l'AFPA de Carcassonne. On peut peut-être laisser ton nom d'entreprise?
Oui, ou comment... bien sûr, donc si vous voulez me contacter et faire des visites, donc il faut aller sur le site www.legende-doc.com, légende au pluriel, et mon téléphone c'est le 06 72 73 81 20. Donc les gens de Doc, vous me trouvez facilement sur internet.
Est-ce que tu as aussi du public qui vient même de l'Aude mais qui connaît pas ces coins-là en fait, hein?
Ah oui, il y en a aussi, hein. Hein. Alors il y en a qui viennent de loin.
Et des étrangers?
Aussi, j'ai des étrangers, okay. Aussi, puisque d'accord. Je fais les visites en anglais.
D'accord.
Mais en fait, j'ai toute la France, l'étranger, voilà, donc il y a un peu de et le local.
OK. Un peu de parfait. Tout. Bon, merci beaucoup Stéphanie.
Merci Christina.
Bonne continuation.
Merci à toi.
C'était Traversons la rue, l'émission mensuelle dédiée à l'insertion, la formation et l'emploi. Rendez-vous pour un prochain numéro consacré à Cœur de village, chantier d'insertion.